Mystère Tintin arrive aujourd'hui aux États-Unis.
C'est paru dans le petit 20e. C'était le 3 septembre 1931. Et l'album est sorti en 1932. Alors, dans Tintin en Amérique.
Tintin est plongé dans le vif du sujet par les gangsters qui le kidnappent dans une voiture au volet d'acier. Il est enfermé dans la voiture, rappelez-vous. On y retrouve les grands thèmes des films de gangsters puisque les bandits utilisent, outre ces voitures à volet d'acier, la voiture de choc qui emboutit la voiture.
Et ça existait à l'époque.
On y retrouve de fausses ambulances. Et on remarquera au passage, dans ce Tintin en Amérique, que les Indiens sont chassés de leur terre quand Tintin découvre par inadvertance du pétrole en creusant une galerie pour échapper à ses poursuivants et à l'infâme Bobby Smiles. Et Milou, dognappé, serais-je tenté de dire. Milou étant dognappé, Tintin part à sa recherche sur une route, quelle image d'ailleurs finalement étonnante, sur une route bordée de carcasses automobiles qui pourrissent, rappelez-vous.
On est en 31.
Avec des statues, on est en 31. Il retrouve son chien, triomphe des bandits, et le héros d'une véritable ticket tape parade dans une décapotable style Packard.
Mais on sait vraiment pas, il n'y a pas d'auto...
Non, franchement non. Là, vraiment, je me suis cassé la tête.
Alors qu'en 31, les voitures étaient déjà très stylisées, en fait, elles avaient leur silhouette.
Elles avaient leur silhouette, une forte... Oui, elle était déjà là, oui. Avait sa silhouette bien précise, les Packard, etc. Les Hupmobiles avaient des silhouettes très précises.
Est-ce que c'est déjà l'époque où les voitures s'appelaient... Enfin, comment s'appelaient? Ces voitures avec le coffre qui se transformait en siège arrière.
Ah, les Dickey Seats.
Ah, c'est merveilleux.
Dickey Seats, ça c'était...
Packard avait inventé ça, je crois.
Oui,
c'était super.
Exactement, j'ai un ami.
Eh bien moi, curieusement, dans Tintin en Amérique, je n'ai pas trouvé d'avion, je n'ai pas trouvé d'aéroplane, j'en ai pas vu. Enfin, il y en a d'autres dans d'autres histoires. Avec Alain Van Denabel, nous vous comptons les autos et les avions de Tintin.
Normal.
Scalpel. Sponge.
Welcome in New York, Mr. Bernstein.
Cut.
This country may be dangerous for your health. Do you return in your home?
Sponge. Blood pressure?
Nous allons faire une proposition que vous ne pourrez pas. Refusé.
Milou, tu es incorrigible.
En route vers de nouvelles aventures. Ça doit être un enregistrement merveilleux à faire.
Ils doivent rigoler.
Ah ben oui. Alors c'est vrai que c'est très amusant de retrouver dans les images... Pardon. C'est les gaz d'échappement des autos de mon ami Alain. C'est très amusant de rechercher dans notre documentation les silhouettes et les formes. Alors là, nous sommes dans l'oreille cassée. L'oreille cassée, c'est quand même une aventure étonnante, puisque dans le musée imaginaire de Tintin, on a retrouvé cette petite statue Arumbaya. Oui. C'est ça, l'oreille cassée.
C'est terrible, parce que finalement, les Arumbaya par l'Oualon. Enfin, les gars dans la forêt par l'Oualon. Non, mais dans l'oreille cassée, rappelez-vous, Tintin croit avoir trouvé le numéro de la plaque des voitures des deux bandits qui ont voulu l'écraser au début de l'histoire. Ramon et Alonso, il y en a un des deux qui lance toujours le couteau, mais toujours trop à droite. Madre de Dios, trop à droite.
Encore raté. Oui. Caramba, encore raté.
Caramba, encore raté. Mais il lit les chiffres à l'envers et part en cherchant l'adresse des types qui a cette plaque de voiture. Et il se retrouve à Avenue du Troubadour, chez Eugène Triboulet, un vieux monsieur à la barbe blanche, dont le chauffeur porte une autre barbe blanche aussi longue, et qui va monter, et celle-là m'a fait suer, croyez-moi, dans une Chenard et Walker de 1908. Et là...
Doucement, hein, parce que celle est vieille. Hein.
C'est une vieille, celle-là. Mais ce n'est pas tout. Plus tard, le colonel Tintin perd l'amitié du général Alcazar à la suite de déclarations mensongères d'un homme abject, M. Chiclette, un homme des compagnies de pétrole. Il est libéré de prison par Pablo, s'enfuit à bord d'une Morristen, mais est pris en chasse par une Buick 8 cylindres, une très belle voiture de 36, décapotable, à bord de laquelle se trouvent les hommes d'Alcazar de la République de San Theodoros, capitale San de Picos. Tintin passe de justesse devant un train, se fait rattraper en montagne, lance sa voiture dans un ravin, prend celle de ses poursuivants et se fait finalement arrêter à la frontière du Nuevo Rico, entraînant une vive réaction de San Faction, puisque les Nuevo Riquiens déclarent la guerre aux San Théodoriens pour attaque brusquée au poste frontière. Tout rentrera dans l'ordre et le fétiche des Arumbaya à l'oreille cassée retrouvera son musée.
Quelle année est-ce encore l'oreille cassée?
L'oreille cassée, 35.
1935.
35.
Et les voitures sont logiques, je veux dire.
Oui.
Il n'y a pas de...
Les voitures sont logiques. On retrouve des voitures logiques et on va en retrouver des logiques vraiment jusqu'au bout maintenant.
En fait, c'est paru dans le Petit 20e en 1935 et c'est sorti en album en 1937, l'oreille cassée.
Oui! Caramba, encore raté. Regarde, chico, c'est le petit reporter Tintin.
Alors, sur cet envolé de mariachi, nous arrivons où?
Au cigare du pharaon. Très bref, là. Tintin poursuit l'infâme Rastapopoulos, mais il ne sait pas encore que c'est lui.
Quel sordide bonhomme celui-là,
oui,
alors.
Et son fakir qui ont pris en otage l'enfant du Maharaja de Rawalpindi. Et là, il conduit une Maserati de compétition type 8CM de 34, après avoir semé les deux Dupont dans le garage, parce qu'il s'était mal accroché à l'arrière de la voiture. Et c'est un gars qu'on va retrouver dans le suivant, d'ailleurs, le sceptre de Tokar, vous allez voir. Si vous voulez, on peut enchaîner, parce que
oui, enchaînons.
Dans le sceptre de Tokar...
Attendez, ça, il faut dire... Ça, nous sommes en pleine Sildavi, là, ou bien on est dans le désert? Où est-ce qu'on est, là? On est dans le désert, là. On est en plein désert, là. En ce moment, non pas avec des pots de couleur, non pas avec de l'encre de Chine, mais avec des puits de pointe de diamants, nous avons... Philippe Poil et Jean-Paul Volon, ils sont en train de sauter de platine de vinyle en platine de feutre. Je vais t'en dire que c'est quelque chose. C'est le crabe aux pinces d'or.
Si habillés, nous ne serons reconnus de personne. Vous avez bien raison, Dupont. Je dirais même plus, vous avez raison. Alors, l'enchaînement, disiez-vous, le gag de Dupont qui lâche le coffre. Là.
Ça me fait penser à ces... Ah, mon cher ami, nous sommes très heureux de vous savoir ici. C'était un autre personnage. Dans le sceptre d'autocar, les bandits qui veulent tuer Tintin avec un colis explosif au début, et ce sont les deux Dupont qui le reçoivent en plein visage, s'enfuient à bord d'une Opel Olympia. Tintin les poursuit à moto après avoir aussi décroché les deux Dupont sans le savoir, et Milou d'ailleurs, de la selle arrière en démarrant brutalement. Ils glissent sur la selle et tombent tous à terre, sauf Tintin qui poursuit les bandits à moto, et ils retrouvent les Dupont à bord d'une Ford 39 décapotable. Et cette même Ford est utilisée par les gendarmes Sildave qui doivent éliminer Tintin dans la forêt près de Clove. Finalement, par chance, en étant renversé, Tintin rencontre le roi qui conduit, alors là vraiment c'est une des plus belles autos, une superbe Packard coupée de 39.
Avec le capot en forme de... comme ça là, comment ça s'appelle ça? Allez, un petit peu... comme les paragraphes, le haut du capot est comme ça.
En apostrophe.
En apostrophe.
Oui,
voilà.
Et Tintin utilisera cette même Packard pour poursuivre les voleurs, mais je crois qu'on a du neuf.
On a du neuf, et je pense même que nous avons une liaison haute fréquence, car Tintin sait aussi se servir des émetteurs à ondes très courtes. Allô?
Oui, je vous entends très bien, Georges. Et nous sommes à l'aéroport de Zaventem dans une foule de journalistes et Hergé qui est entouré et vraiment rayonnant. Alors, d'ici quelques minutes, l'avion va approcher de l'entrée numéro 29 pour être précise, et je dois dire qu'Hergé est très impatient de le rencontrer. D'ici quelques instants, nous parlerons avec Hergé. Il est occupé à répondre à notre collègue de la télévision, Jean-Claude Defossé. Je dois dire que tout le monde semble un peu ému quand même par cette approche, par cette amitié qui a tenu si longtemps et par cette amitié malgré les frontières, malgré la distance du temps, qui va se concrétiser, qui va permettre des retrouvailles. Alors, si vous le permettez, je m'approche maintenant d'Hergé. Vous allez entendre répondre à FR3. Alors, excusez-moi monsieur, vous êtes très ému je crois par la venue de
Jean. Oui, bien entendu, bien sûr. Après 45 ans, on va y retrouver quelqu'un qui a joué un tel rôle dans ma vie.
On le retrouve d'ailleurs pas seulement dans Tintin au Tibet ou dans Tintin et le Lotus Bleu, on retrouve des allusions ici et là dans vos albums.
Oui, par-ci, par-là, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'au fond, il m'a ouvert les portes de l'Extrême-Orient, voilà, hein, de la philosophie orientale.
Et pendant que nous disons ça, il y a l'avion qui s'avance et qui est tout près de l'arrivée.
Oui, voilà, tout le moment...
À quoi avez-vous pensé quand on vous a dit que Chang allait revenir?
Mais écoutez, j'attendais ça depuis longtemps. J'avais moi-même demandé mon visa, que je n'ai pas jusqu'à présent obtenu. Mais enfin, je croyais moi-même y aller là-bas, puisque j'avais retrouvé son adresse. Et puis entre-temps, Gérard Vallée a eu l'idée de demander qu'il vienne. Ça a pris un certain temps, mais enfin, ça s'est fait. Et donc, voilà, je suis prévenu. Je savais que la chose allait se produire.
En tout cas, nous allons attendre peut-être vous remettre l'antenne au studio
pour
quelques minutes, oui.
Est-ce que Hergé nous entend?
Il ne nous entend pas, mais je peux transmettre votre question.
Eh bien, simplement, on voudrait tous ceux qui ont aujourd'hui 40, 50 et même 60 ans embrasser très fort Hergé et vraiment vous lui serrer la main plus que chaleureusement pour le remercier pour tant d'années d'aventures juste de ton qui jamais ne se sont prises gravement au sérieux. Il y avait toujours cette demi-teinte qui faisait qu'on n'avait pas vraiment peur et on était un petit peu ému. Et je voudrais vraiment que l'on embrasse très fort Hergé, en tout cas tous où que nous soyons assis dans la Belgique et tous ceux qui ont ouvert un des 35 millions d'albums édités.
Eh bien, au nom de tous ces auditeurs qui embrassent Hergé, qui ont 30, 40, 50, 60 ans et qui ont connu toutes ces aventures de Tintin que vous venez d'évoquer avec tellement de joliesse, eh bien, je transmets tous ces embrassements à Hergé, je crois, qui rayonne à chaque fois.
Qui est très ému et qui ne sait quoi dire, qui ne sait que répondre à tant de gentillesse.
En tout cas, dès que vous avez Jean-Pierre, Monsieur Chang, au bout du micro, eh bien, bien sûr, l'antenne vous est ouverte. Hein.
D'accord.
À tout à l'heure,
Georges.
Et nous continuons avec Alain à raconter l'environnement extraordinaire d'un siècle mécanique, faut-il le dire, les autos et les avions. Où sommes-nous là? Réfléchissez un peu. Et je vous rappelle que si parfois Tintin est entouré d'objets extraordinaires qu'il sait toujours piloter, que ce soit hélicoptère ou jet, il connaît tout, il arrive que, à la radio, le petit service de communication ne fonctionne pas bien. Ce qui est merveilleux, c'est que la haute fréquence va très bien jusqu'à Zaventem, mais qu'ici, dans le studio, nous avons des petits problèmes de communication, ce qui fait que nous allons mettre de l'ordre dans notre ménage en donnant ces indications à Philippe et à notre ami Jean-Paul. Comme ça, devant vous, nous allons faire la radio, un petit peu comme si vous entriez dans la cuisine d'un grand chef. Cela dit, maintenant, j'ai quelque chose à ajouter à propos du sceptre d'Ottokar en Sildavie. C'est en 1938, vous l'avez dit, qu'a lieu cette aventure. Alors, à propos d'un avion étonnant, eh bien, après avoir utilisé les services d'un Savoia Marchetti, SM73.
On va paraître plein de monde à l'aéroport de Zaventem.
Attendez.
Oui, Georges, je vous
dis. Oui, vous aviez des choses à nous dire, Jean-Pierre ?
Eh bien, j'avais à vous dire que cette fois-ci, Chang est vraiment sur le point d'apparaître derrière la porte. Tous les autres passagers sont déjà sortis de l'avion.
Priorité alors.
Alors, nous attendons, le suspense grandit ici. Je dois dire que les journalistes s'agitent, les caméras se mettent à tourner, les flashs des photographes crépitent. Et voilà, nous voyons sortir l'équipe de la télévision qui accompagnait Chang depuis Paris jusqu'à Bruxelles. Encore quelques instants. Ah, vous voyez, c'est très impressionnant, Hergé.
Très, très, je vous assure. Très, plus que je ne saurais le dire.
Voilà. Alors, Georges, je crois que nous allons bientôt avoir un Chinois qui a fait beaucoup parler de lui de ces jours-ci. Voilà. Et cette fois-ci... Oui, je crois qu'il y a encore les dernières formalités, je crois qu'il y a encore les accolades avec les hôtesses aussi qui ne veulent pas perdre la partie de... émouvante qui se déroule, qui va encore se dérouler devant nous. Je dois dire que moi-même, je suis un peu muet d'émotion. Si. Hergé confie, moi aussi. Je ne sais pas, est-ce que les frémissements sont perceptibles chez vous, Georges ?
Je pense que chacun d'entre nous est en train de vivre ses souvenirs. Nous savons que pour Hergé, c'est évidemment le petit cristal de l'amitié qui va briller dans un instant. Mais je pense que chacun d'entre nous revoit des bancs d'école, revoit des jardins où sous le soleil du printemps on se mettait à lire une aventure, assis contre un mur, ou dans un grand fauteuil du salon.
Ou dans sa chambre.
Oui, oui. Alors je pense que pour chacun d'entre nous, Chang, c'est un morceau de notre jeunesse. Alors nous allons à la fois avoir cette impudeur d'être présents dans cette rencontre,
voilà.
Mais aussi c'est un moment prodigieux de radio.
Beaucoup d'agitation ici, c'est énorme. Et voilà. Et je vois apparaître un autre monsieur très rayonnant en bout de couloir. Et Hergé tend le cou pour mieux le voir. Les photographes veulent avoir leur part aussi, bien entendu. Et c'est vraiment toute une délégation rayonnante qui arrive de très loin ce matin. Ah, de grands bonjours, de grands saluts. Toujours les mêmes grands frémissements. Gérard Vallée qui suit et Chang, voilà. Et ça va être l'accolade.
Ne touchez pas trop. Pour votre santé.
Un petit peu mieux, mais oui, pas beaucoup. Et toi, tu as l'air magnifique.
Oui.
Hein? Et c'est de la grande émotion. Chang et Hergé tombent en pleurs dans les bras de l'un de l'autre. Je vais céder d'ici quelques instants le micro à Gérard. Non, Gérard me fait non, Gérard était musulman.
Je suis incapable de dire quelque chose. Ça m'arrive rarement, mais je ne sais pas.
C'est magnifique. Et maintenant, Hergé embrasse le fils de Chang, qui l'a accompagné jusqu'à Bruxelles. Voilà, ces mouvements sont émouvants, ils sont difficiles à décrire. Vraiment, les larmes coulent sur les joues des deux protagonistes, de Chang et d'Hergé. Et vraiment, on sent que cette amitié a été et reste quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que c'est assez rare que dans les annales de la radio ou de la télévision sur nous, on puisse donner de bonnes nouvelles, comme celle-là, dire une amitié extraordinaire, vous la présente aussi. Georges, je vais vous rendre l'antenne. Et nous vous retrouvez peut-être tout à l'heure.
Bienvenue, Monsieur Chang. C'est en 1934 que, après avoir terminé les cigares du pharaon, Hergé annonce dans le petit 20e que Tintin va poursuivre son voyage vers l'Extrême-Orient. Suite à cette annonce, il reçoit une lettre qui disait en substance ceci. « Monsieur Hergé, je suis aumônier des étudiants chinois à l'université de Louvain. Or, Tintin veut partir pour la Chine. Si vous montrez les Chinois comme les Occidentaux se les représentent trop souvent, si vous les montrez avec une natte qui était sous la dynastie Mandchou le signe de l'esclavage, si vous les montrez fourbes et cruelles, si vous parlez de supplice chinois, alors vous allez cruellement blesser mes étudiants. De grâce, soyez prudents, informez-vous. » Et c'est ce que Hergé a fait. Et l'abbé Gosset, l'auteur de cette lettre, l'a mis en rapport avec un de ses étudiants qui était dessinateur, peintre, sculpteur, poète, et qui s'appelait Chang Chong-yen. Rappelez-vous qu'un des grands rapprochements de notre histoire fut fait entre l'Amérique et la Chine par des petites raquettes de ping-pong. Rappelez-vous comment un trait noir d'encre de Chine peut donner vie à un de ses enfants, un monsieur tout simple, qui n'est pas un des grands de ce monde, qui est simplement quelqu'un qui a vécu sa vie dans l'art, dans l'artisanat, quelque part à Shanghai. Il ne s'agit pas d'un homme d'État, il ne s'agit pas d'un grand savant. Il s'agit d'un cœur appartenant à un petit monsieur tout le monde. Si, l'émotion simplement professionnelle. Nous ne savions pas à quel moment précis l'aéroplane allait se poser. Et puis il faut le temps de sortir, il faut le temps de la photo, le temps du son, la caméra. Quelle chance pour nous d'avoir été dans ce petit moment de mission, la nôtre, d'avoir pu accueillir ce moment-là. Et soyons certains, Alain et moi, nous en avions, nous aussi, l'émotion au coin des yeux. Et nous allons continuer notre aventure. Je vous ai dit que dans le sceptre de Tokar en Sildavie en 1938, après avoir utilisé les services d'un Savoya Marchetti SM-73, un trimoteur que la Sabena avait mis en service en 1935 et qui était peint aux couleurs jaune-ocre, Tintin change d'avion et tout à coup passe au travers du plancher. C'est bien, en cherchant bien, ce curieux aéroplane est un avion qui porte un nom flamand. C'est un Nordeune, Norseman, et cet avion, en fait, est un avion dit de brousse, et il fut conçu en 1935 au Canada. Cet avion, qui était solide et à toute épreuve, sera beaucoup utilisé par l'US Air Force pendant la guerre comme avion de liaison. C'est vrai quand même curieux que cet avion s'appelle Nordeune. Petit silence, émotion, Alain... Allez, on se reprend maintenant.
Oui, on se reprend, quand même. C'est étonnant.
Hein. C'était merveilleux.
C'est vraiment étonnant. Je dois dire que...
Allez.
Le crabe aux pinces d'or, lui.
Allez, oui.
On appelait le crabe aux pinces
bon.
D'or.
Bon, c'est là. En ce moment, il y a Philippe qui vient d'ouvrir une boîte qui n'était pas fraîche. Et le crabe aux pinces d'or est sorti tout seul. C'est le crabe tambour.
Et c'est... Ah, je ne dors pas.
Alors, crabe aux pinces d'or, on a retrouvé les boîtes et les étiquettes surtout.
Ça nous permet de suivre un nouveau kidnapping, celui d'un monsieur japonais ou chinois, comme dit la concierge de Tintin, cette brave madame Pinson. Et Tintin rencontre dans cet album un autre de ses grands amis futurs, qui est le capitaine Haddock, qui est kidnappé à son tour à Bagar, le grand port de la côte marocaine. Tintin essaye de poursuivre les bandits en sautant à bord d'une pelle tirée dans l'autre direction par une dépanneuse, car elle n'a plus de droit à rire, elle est toute abîmée, mais ça, Tintin ne l'avait pas vu. Puis prend d'assaut un taxi NN, Renault, et fait fuir le client qui s'y est installé, en même temps qu'il lui prétend qu'il est atteint de la rage.
C'était donc à quelle époque, ça, le crabe?
Le crabe aux pinces d'or. Là, il faudrait que nous
continuions la liste. C'est paru dans Le Soir en 1940, le crabe aux pinces d'or. Ouais. Et sorti en album en 1941. Alors, moi, je vais aller en 1900...
Il y avait un avion dans le crabe aux pinces d'or.
Je n'ai pas vu, mais je n'avais pas l'album à la maison.
Ah, un avion, un monoplan avec des ailes à auban par en dessous. Rappelez-vous, ils se battent dans cet avion, ils tombent dans le désert.
Un avion et il redresse à un moment donné, oui. Parce que je crois que le capitaine Mardoc, un petit peu pris de boisson, assomme Tintin.
Voilà.
Bon, et bien cet avion, je crois l'avoir vu, il s'agirait d'un avion type austère. C'est un avion anglais, à aile haute, et dont l'emplanture des ailes était un peu curieuse, comme ça elle redescendait vers, vers le centre. Et le moteur est un moteur en ligne, oui, je dois le savoir, mais je n'avais pas beaucoup de documentation là-dessus, n'ayant pas le livre sous les yeux. Par contre, venons-en, si vous le voulez, là, à une autre aventure. C'est en 1937 aussi, je voudrais quand même raconter ça. En 1937, c'est l'île Noire. Dans l'île Noire, il y a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de machines volantes et aériennes, mais je voudrais surtout me souvenir de celle du tout début. C'est un monoplan sans immatriculation qui se pose dans un champ. Alors rappelez-vous, Tintin s'approche, tiens, c'est curieux quand même, un avion qui se pose comme ça, mais il s'approche trop près de deux pilotes vêtus de noir. Des faux monnayeurs. Slim, quelqu'un. Tant pis, tu connais la consigne. Pas. Tintin s'écroule. Heureusement, vous le savez bien, si on l'avait tué en 1937, il n'aurait pas fait cette merveilleuse carrière. Mais la silhouette de cet aéroplane rappelle un Heinkel 70. C'est un avion dont l'axe d'hélice sortait fort bas sur le capot, en dessous, et les ailes étaient arrondies en feuilles de laurier. Cette redoutable machine se rendit fort tristement célèbre dans la Légion Condor, ceci pendant la guerre d'Espagne. Nous étions, je vous le rappelle, dans l'île Noire en 1937. Et puis, en 1942, c'est l'étoile mystérieuse et l'avion jaune à flotteur qui est utilisé dans l'étoile mystérieuse par Tintin pour aller planter le drapeau sur la nouvelle île. Cet hydravion immatriculé FERS, sans doute Fédération Européenne de Recherche Scientifique, est un avion allemand. C'est un Arado AR-196 qui, dans la réalité, vola lui aussi au-dessus des glaces des régions polaires dans la région de Mourmansk, car il était sur les chemins arctiques pour la protection des convois militaires. Donc cet avion à flotteur a bien existé et la silhouette, là, ne permet pas de se tromper, il n'y a pas d'hésitation. Un Arado AR-196 dans l'étoile mystérieuse. Les sept boules de cristal, il y a beaucoup d'autos là-dedans.
Oui, et là nous découvrons un capitaine Haddock, propriétaire d'une superbe Lincoln Zephyr V12 de 38, et Marc Charlet, un des savants, ayant participé à l'expédition Sanders Hartmut, qui a découvert la mamie de l'Incar Askar Kapak, est endormi par le gaz contenu dans les boules de cristal dans un taxi Ford de 1939. Les bandits utilisent pour leur part une pelle Olympia, à bord de laquelle ils ont embarqué de force le professeur Tournesol, qui avait mis le bracelet de la mamie de l'Incar Askar Kapak. En fait, il s'agit des habitants de la cité des Andes, mais on l'apprendra dans le deuxième volume de cette série, Le Temple du Soleil. La Lincoln Zephyr décapotable du capitaine sera prétexte à un superbe gag sur la route de Saint-Nazaire. Tintin et le capitaine veulent la capoter sous la pluie. Ils y arrivent quand le beau temps revient et on voit un rossignol chanter. Et puis le capitaine, mais vraiment trempé, est douché à nouveau par un camion qui passe près de lui et roule dans une immense flaque d'eau.
C'est en 1946 qu'est sorti Les Sept Boules de Cristal dans le journal Tintin. Et Les Sept Boules de Cristal, si elles reprennent des autos d'avant-guerre, correspondent bien à l'époque, car c'est vrai qu'on utilisait beaucoup de voitures ayant passé à travers la guerre et la réquisition
allemande. Beaucoup d'Américains en Belgique après-guerre, certaines marques, enfin Ford, Lincoln, etc.
Car les marques européennes reprenaient tout doucement, que ce soit Renault, que ce soit les voitures anglaises ou italiennes.
Les anglaises, oui.
On essayait tout doucement de rouler avec ce qu'on avait pu sauver. Alors là, vous avez aussi Au Pays de l'Or Noir. Ah, alors là, nous sommes en quelle année, Le Pays de l'Or Noir? Ça doit être dans les années 47-48, si j'ai bonne mémoire.
Oui, 48. Et c'est vraiment un livre fantastique.
En 48, oui, sorti en 50 en album.
Je crois que j'arriverai difficilement au bout. Bon, là, Le Pays de l'Or Noir, c'est tout. Il y a une crise du pétrole, en fait, il y a l'explosion de moteurs, il y a les Britanniques, les Juifs, les
boum,
Arabes.
Quand votre cœur fait.
Boum. Exactement. Et c'est d'abord la Citroën C3, 5 chevaux de 25, des Dupont qui explose son moteur de.
Boum, quand votre moteur fait boum, c'est ça.
La dépanneuse Simoun viendra vers vous en vitesse. Comme fait Charles Trenet, évidemment. Boum, quand votre cœur fait boum. Et puis les moteurs explosent la chaîne sans qu'on puisse en connaître les raisons, et les Dupont qui ont un accident avec une dépanneuse de ces Simoun. Ils étaient entrés chez Simoun pour enquêter en croyant que la firme était responsable de l'épidémie d'explosion et ce pour en tirer des profits honteux. Mais ils ne conduisent pas bien, ils foncent dans un arbre avec la dépanneuse. On voit notamment aussi une Ford de 1940 sauter à la page 3. Alors, nouveau kidnapping de Tintin, cette fois à Haïfa. Les Juifs de l'Irgun le subtilisent aux autorités britanniques à bord d'une Ford de 1939, 8 cylindres. On voit ensuite les Dupont, et là ça devient fabuleux, se perdre dans le désert à bord de leur Jeep rouge, foncer contre un arbre, entrer dans un lac, botter le train de pèlerins en prière en les prenant tous pour des mirages, avant de suivre leurs propres traces dans le sable, de tourner en rond et de retrouver Tintin en plein milieu d'une tempête de sable. Et cette équipée s'achève dans les rues de Wadesda où elle sème la panique en étant endormie au volant. Alors à noter aussi à Wadesda la voiture du fils de l'émir Ben Khalishezad.
Oh, ça, c'est une merveille.
Voilà, c'est la Bugatti Baby. C'est un jouet créé par Ettore Bugatti lui-même pour les enfants. Riche, il faut bien le dire.
En quelle année?
C'est la réplique exacte de la Bugatti type 35 de compétition, donc au début des années 30. Mais c'est vraiment un jouet authentique. Et le petit Abdallah,
le chef du monde,
le fils de l'émir, après avoir été libéré des griffes de l'homme de l'infâme Babeler et de Muller qui se fait passer pour le professeur Smith, est à nouveau kidnappé par le dit Muller qui s'enfonce dans le désert à bord d'une superbe Buick rouge de 49.
Ah, elle est très belle.
Tintin et Haddock se ruent à sa poursuite.
Non, Braddock.
Braddock, si non, vous non. voulez, dans une Lancia Aprilia. La Buick verse au sommet d'une dune à cause du poil à gratter mis dans le cou de Muller par Abdallah et prend feu. Faut le faire.
Il y a une autre aventure dessinée par Hergé, mais qui n'est pas signée Tintin. C'est une aventure qui parut en 1938 avec Jo et Zette. Et en 1938, c'était un aéroplane lui-même qui était la vedette de l'histoire. Cet avion, c'est le célèbre Stratonef H-22. Dans le testament de M. Pump et destination New York, Joe et Zette pilotent le H-22, le Stratonef qui doit voler à plus de 1000 km/h. Nous sommes en 38. Cette machine rappelle incontestablement les Gaudrons Renault, merveilleuses belles bêtes à record des années 30. Quant au père de Joe et Zette, M. Legrand, il ressemble alors vraiment comme deux gouttes d'eau à un ingénieur français vraiment célèbre, le très célèbre Marcel Riffard, qui donna à Gaudrons Renault plus que des lettres de noblesse. Le Gaudrons Renault, le célèbre avion couleur bleue de France, n'atteignit pas 1000 km/h, mais l'année 36 fut pour lui la plus belle, avec le record absolu de vitesse de 469 km/h.
Et Marcel Riffard a d'ailleurs fait des voitures qui ont couru au Mans, des carrosseries, les Panhard Riffard du début des années 50. Au Mans étaient les voitures faites par lui. Et d'un autre côté, j'y pense en vous entendant, la Georges, Monsieur Pump descend à certains moments de sa salle à manger dans un toboggan.
Et tombe dans une auto, une Campbell ou un truc.
Non, non, eh bien exactement, c'est le Speed of the Wind, une voiture qui a été reproduite par une firme notamment de jouets britanniques, hélas disparue de nos jours, on peut la citer donc, Dinky Toys, le Speed of the Wind, qui était une voiture de record du monde sur Terre, que pilotait le célèbre George Heiston, le capitaine George Heiston.
Alors voilà, ce Gaudron Renault sera aussi malheureusement célèbre, puisque c'est avec cet avion que se tuera Hélène Boucher pour une fausse manœuvre, c'est-à-dire une remise de gaz non compensée, c'est-à-dire n'ayant pas corrigé ses ailerons. Ce moteur était d'une puissance telle que si on donnait du gaz, le couple du moteur faisait que l'avion s'était inversé. L'avion a donc basculé, uniquement entraîné par l'effet de renversement de l'hélice à cause de sa puissance énorme. Hélène Boucher n'a pas compensé cet effet et elle s'est tuée à quelques minutes de son décollage. Voilà donc l'aventure du H-22 et ce Stratonef vole vraiment au-dessus des nuages, en quel cas ce qui se passe maintenant pour n'importe quel avion jet. Et il faut dire que vraiment, la maison Hergé a toujours su regarder le détail exact.
Oui, la preuve, là on part vraiment sur la Lune, objectif Lune, et on a marché sur la Lune. Eh bien, dans ces deux albums où l'homme s'est posé sur la Lune, autrement dit Tintin.
Le premier d'ailleurs.
Le premier, avec ce ballet fabuleux des deux Dupont qui danse en se tenant par la main, en apesanteur. Bref, les voitures d'Objectif Lune et de On a marché sur la Lune font partie du parc du centre de recherche atomique de Sbroch, en Sildavie. Mais curieusement, ce sont toutes des Américaines. Une Ford 6 de luxe de 50 et la Dodge Coronet de 50, sans oublier la Jeep.
C'est en 50, On a marché sur la Lune.
Oui. Hein. Et à noter, à la fin de On a marché sur la Lune, que la Ford, avec à son bord le directeur du centre, Monsieur Baxter, et son chauffeur, est aplatie et grillée par la fusée qui revient de la Lune. Et sont malheureusement pour les deux occupants dont les vêtements sont déchirés et les visages noircis.
Voilà, vous êtes bien amusé, non?
Ah oui, j'ai bien ri. Et alors, on entre avec l'objectif Lune et on a marché sur la Lune en Sildavie, où l'ARG se déchaîne dans l'affaire Tournesol. D'abord, là, les deux Dupont ont une deux chevaux. Les bandits, une Mercedes d'abord, une Mercedes 180 noire, puis en Suisse, une Citroën 15 chevaux noire. Et c'est l'air avec cette voiture qui font une queue de poisson au taxi Simca à Ronde de Tintin et du Capitaine, les précipitant dans le lac Le Mans. Tournesol kidnappé et caché dans le double fond d'une banquette arrière de Chrysler Windsor. Tintin et Haddock la poursuivent avec un Italien digne de la grande tradition des pilotes transalpins, amoureux de la Bella Meccanica, puisqu'il possède une Lancia Aurelia et qu'il a un nom à tiroir épouvantable. Hergé se déchaîne en bordurie à Saute, où toutes les voitures ont des pare-chocs en forme de moustaches, les moustaches de plexiglas évidemment. Et lors de la poursuite finale, nos héros qui ont récupéré le professeur fuient à bord d'un cabriolet style Lancia à moustache, avec lequel ils ont un accident sans gravité et après lequel ils volent le char de leur poursuivant.
Voilà, c'est nos souvenirs que nous vous avons racontés. Il y en aura encore bien à dire, mais nous allons vous proposer de faire peut-être le même jeu, d'essayer de trouver les objets et d'essayer de voir un petit peu à quel moment ils vous ont ému. Première Chine, c'est Hergé qui vous l'a montré. Votre première rencontre avec l'Inde, c'est Hergé qui vous l'a montré. Votre première découverte du désert, c'est sans doute Hergé qui vous l'a apprise. Votre première traversée de la jungle d'Amazon, c'est sans doute Hergé qui vous a pris par la main. Votre première aventure avec des marins un peu sordides, c'est sans doute le crabe aux pinces d'or qui vous l'a suggéré. La première démesure du souvenir d'un homme gentiment alcoolique, c'est sans doute Rackham le Rouge qui vous l'a fait vivre.
Je n'ai qu'un seul rival, c'est Tintin. permis, vous êtes condamné à 50 ans de travaux forgués. Aujourd'hui, le petit pylône en cils d'avis. Et voici un monsieur charmant, une dame souriante, un autre monsieur qui entre. Ils ont en main une petite boîte verte et blanche. Je vois déjà la documentation pour un microphone. C'est un cassettophone qui nous est offert très gentiment à nous. Nous serons simplement le tapis, le relais pour que monsieur Chang, à Shanghai bientôt, écoute toutes les cassettes de cette aventure qui va durer 3 semaines. Je vous remercie, bravo d'avoir été aussi rapide sur la balle. Et voilà, cassette recordeur, il fonctionne dans tous les courants du monde et aussi avec des piles internationales. Grand merci Alain Van Den Abel d'avoir... vous êtes penché sur vos souvenirs.
J'ai beaucoup ri.
Merci à David Lachterman d'avoir eu cette idée très sympathique. Je vous retrouve dans une heure à peu près, vers midi. Je ferai en votre compagnie Point de Mire. Et encore, bien sûr, il sera question de tintinologie. Merci à toute l'équipe du studio, non pas graphique, mais sonore. Merci à Philippe Poil d'avoir été rapide sur la balle. Merci à Michel Leroy d'avoir répondu au téléphone. Merci à Jean-Paul Volant. Et on vous retrouve demain pour une toute autre histoire. Quant à moi, c'est à midi que je vous retrouve en Point de Mire. Au revoir, monsieur, dame. À tout à l'heure.